Bonjour, donc on va changer de thématique et on va débuter une table ronde qui on va discuter de la place d'une IPA au sein d'un service de pneumologie avec les regards croisés. Donc il y a Alexandra Jézékel Beyer qui est IPA à Brest dans le service de pneumologie. Et je ne le présente plus, Christophe Leroyer qui est PUPH de pneumo à Brest. Donc il va y avoir une présentation, mais ça aussi, c'est un temps de partage. Hein, donc, si vous avez des IPA, si vous avez des questions à poser, si vous envisagez une IPA, c'est vraiment le moment de partager qu'on se cède mutuellement pour définir la place. Et voilà, c'est ça. À
vous. Merci beaucoup pour cette introduction et merci aux organisateurs pour nous permettre de nous exprimer. Alors, c'est une grande première pour Alexandra, donc vous pouvez l'applaudir. bon, moi je suis le vieux de l'étape, je pense que certains d'entre vous me connaissent. Je suis là aussi parce que je suis dans la Fédération française de pneumologie, le CNP, et donc on suit ces sujets sur le plan réglementaire. Donc on pourra en parler. Peut-être, Alexandra, vous voulez savoir dans la salle, puisqu'on est dans une table ronde, donc ça va être interactif, qui travaille avec les IPA? Vous levez la main. Ah ben c'est pas mal, hein. Oui, d'accord. Donc, parce que c'est quand même un métier nouveau. Donc, ce qu'on a prévu, c'est pas le docteur qui parle, mais c'est l'IPA. Donc, Alexandra va nous présenter son travail et son expérience, puisqu'elle est IPA dans le service de pneumologie au CHU de la Cavale-Blanche à Brest. Et puis après, on pourra discuter et puis aborder les perspectives, l'avenir, les aspects réglementaires. Merci beaucoup, Alexandra, d'avoir préparé tout ça.
Donc, bonjour à tous. Donc déjà, qu'est-ce qu'une IPA? C'est quelque chose que tout le monde ne sait pas forcément. Et pourquoi on a créé ce métier? Donc l'IPA, non, ce n'est pas qu'une bière. Déjà, mais maintenant, voilà, c'est un professionnel de santé. Parce que la pratique avancée a été introduite en 2016 avec la loi de modernisation de notre système de santé, avec un objectif commun avec les médecins, c'est d'améliorer l'accès aux soins et du coup le parcours du patient. Nous avons du coup un cadre législatif avec des décrets et des arrêtés pour ce nouveau métier qui évolue du coup assez régulièrement, soit par des nouvelles, de rajouts de nouvelles mentions ou des actes qui arrivent au fur et à mesure. Monsieur Leroyer pourra peut-être nous en parler un petit peu plus tout à l'heure. Notre formation, du coup, elle s'effectue sur 2 ans, que ce soit à temps complet ou en alternance, dans une des 30 facultés accréditées du coup dans toute la France. On a une première année de tronc commun, une deuxième année avec des spécialisations dans une mention, donc qui peuvent être pathologie chronique stabilisée et polypathologie courante en soins primaires. Donc pour la pneumologie, c'est ça. Oncologie, hématologie, oncologie, maladie rénale chronique, dialyse et transplantation rénale, psychiatrie et santé mentale ou encore urgence. Nous effectuons des stages de 2 à 4 mois et notre diplôme est validé du coup après la rédaction et la soutenance d'un mémoire. C'est un diplôme d'État. À noter qu'il y a quand même des infirmières qui sortent directement de l'IFSI, qui peuvent rentrer à la faculté, mais il faut minimum 3 ans d'exercice infirmier pour pouvoir prétendre après être IPA. Nos modalités d'exercice, donc on peut exercer soit en ambulatoire, au sein d'une équipe de soins primaires coordonnée par un médecin, ou en assistance d'un médecin spécialiste, hors soins primaires, ou en établissement de santé, médico-social, à l'hôpital du Saint-des-Armées, mais toujours avec un médecin. Il faut l'accord du patient pour que ce soit possible, avec un protocole d'organisation qui n'est plus obligatoire, mais qui est quand même très recommandé pour acter déjà les pathologies qu'on a droit de suivre et surtout les modalités de suivi. Il faut qu'on puisse avoir des conditions de retour du coup, vers les médecins, soit de notre point de vue, où on voit qu'il y a des dégradations au niveau du patient, que ce soit clinique ou paraclinique, mais ça peut être aussi le patient qui demande lui-même à retourner sans justification aucune qu'avec le pneumologue, pour nous. Là, c'est l'état des lieux de 2023. Nous n'avons pas les chiffres encore de 2024, mais nous étions 2400 diplômés il y a un an, avec 15% d'IPA qui exercent en ville. Et la cartographie des IPA qui a été faite l'année dernière, où on voit que c'est assez dense à certains endroits et d'autres beaucoup moins. Et nous, à Brest, on a de la chance, nous sommes 2. Toutes les deux, on exerce du coup depuis au moins 10 ans en tant qu'infirmière dans le service de pneumologie avant d'être rentrée à la faculté. Donc, ça fait quelques temps. Donc vraiment, concrètement, qu'est-ce qu'on fait une IPA en pneumologie? On a plusieurs missions qu'on nous demande. Une mission d'activité clinique qui prend à peu près 60% de notre temps en préparant les consultations. On fait bien sûr la consultation, on réalise des courriers qu'on gère tout seul, qu'on envoie au médecin traitant parce qu'on n'a pas de temps de secrétariat. Ça ne marche plus. Nous avons aussi une mission d'éducation thérapeutique pour laquelle on réalise des séances. Moi, j'ai eu la chance de construire un programme d'éducation thérapeutique sur l'HTP. Ma collègue est coordinatrice du programme ASM. Une mission d'analyse de pratiques professionnelles qu'on nous demande aussi afin d'améliorer les pratiques de nos quotidiens. En tant qu'infirmière, j'ai pu constater que l'entretien des aérosols n'était jamais correctement fait. Et là, j'ai pour but de montrer à mes collègues que ce n'est pas fait avec les recommandations actuelles et un groupe de travail pour améliorer les choses. On a une mission de recherche clinique qu'on nous demande, 20% chez nous au CHU, pour lequel on fait du screening de patients qu'on peut mettre dans des études qui sont actuellement en cours. Et on nous demande aussi de la recherche paraclinique, pour lequel on est en train de monter un travail sur la place de l'IPA dans l'amélioration de la couverture vaccinale antipneumocoxique. Donc ça fait quand même beaucoup de choses. On a une mission de formation pour laquelle on doit du coup faire une veille professionnelle. On a la chance de pouvoir quand même maintenant assister à plein de congrès très intéressants. Et on donne des formations du coup aux écoles d'aides-soignants, infirmiers et à la faculté pour les IPA maintenant. On accueille des étudiants tout au long de l'année aussi. Une mission de coordination, que ce soit avec les cadres de proximité. Alors nous, on n'a pas d'infirmière coordinateur, mais on a des infirmiers de programmation de parcours patient avec qui on travaille beaucoup, avec les différents prestataires ou avec l'HAD. Nos patientes sont toujours adressées directement par les pneumologues, jamais en direct, soit après une hospitalisation pour réévaluation ou une adaptation de traitement, soit après une consultation en alternance, bien sûr tous les 3 à 6 mois, ou suite à un hôpital de jour. Vu qu'on est deux, on a quand même beaucoup de pathologies. Nous avons l'asthme, la BPCO, l'hypertension pulmonaire, le syndrome d'apnée du sommeil, l'embolie pulmonaire, et en cours de développement et surtout de formation, le suivi thérapeutique des patients porteurs d'une fibrose pulmonaire. Donc on n'a pas de répartition stricte, mais on a quand même chacune nos appétences. Là, je vous ai mis un petit diagramme, du coup, depuis janvier 2024, la répartition de nos consultations, qui est à peu près équilibrée. On a la chance d'avoir des consultations entre 45 minutes et 1 heure, pour lesquelles on réalise une anamnèse, qui nous prend déjà beaucoup de temps. On réalise des échelles de dyspnée, des échelles ACT. On fait des scores de qualité de vie tels que en phase 10, on fait un examen clinique, on prend à chaque fois les constantes, on fait une évaluation de la bonne prise thérapeutique, soit avec des dispositifs inhalés ou avec les leurs, même s'ils les ont, bronchodilatateurs ou biothérapie. On fait de la prévention sur les vaccinations, on remet des carnets de vaccination pour un meilleur suivi. On en fait, si on a besoin et si on peut, de l'éducation thérapeutique. On n'hésite pas à leur donner du coup les coordonnées des associations, des documents de patients. On fait la lecture des examens complémentaires, EFR, test de marche, gazométrie, biologie. Et quand on se rend sur le site de Carré, on réalise nous-mêmes nos spirométries. On peut réadapter le dosage si besoin. On n'est pas apte à réaliser du coup les relectures des images telles que la radio ou les scanners pour lesquels on demande l'avis au pneumologue. Et en cas d'exacerbation, de questionnement clinique, de thérapeutique ou autre, on demande toujours un avis médical, soit au médecin référent ou si c'est plus urgemment au médecin qui est de proximité. Le bilan d'exercice après 2 ans, donc moi je suis diplômée depuis 2023, ma collègue 2022. Les patients du coup nous rapportent que ce sont des interlocuteurs privilégiés, qu'on a un lien entre le patient et le médecin. Nous sommes joignables directement, certains ont directement nos coordonnées, et on peut réaliser des suivis rapprochés si on voit qu'il y a une malobservance ou une maltolérance des traitements, une difficulté d'adhésion thérapeutique. Notre satisfaction à nous, c'est qu'on a quand même une belle évolution professionnelle pour laquelle on travaille en collaboration et en confiance avec les pneumologues. On voit notre file active qui augmente, pour lequel on a déjà plus de 500 consultations en 2024. Et l'objectif était quand même de fluidifier le parcours de soins et favoriser le lien ville-hôpital. Et on pense à un petit démaillon. Je ne sais pas ce que M. Laurier en pense.
Merci beaucoup, Alexandra. Donc, pour une première, c'est réussi. Pas de problème. Bon, ben, on va ouvrir le débat. Je suis sûr qu'il y a des questions ou des retours d'expérience sur ce métier qui est tout nouveau. Je ne sais pas qui veut se lancer. Ben voilà, Cécile.
Merci Alexandra, c'était très clair. Moi, donc, je travaille au CHU de Brest, je suis pneumologue spécialisée dans les maladies vasculaires pulmonaires, mais je vois un peu de tout. Et je travaille étroitement avec Alexandra et Marianne, qui n'est pas là aujourd'hui. Je peux vous assurer que c'est un avant et un après par rapport à avant, où on se démenait pour voir un patient rapidement dans le mois, pour être sûr que le traitement était bien pris, etc. Là, on peut tout de suite, une fois qu'on a vu le patient, programmer une consultation avec Alexandra et Marianne, qui se rendent disponibles tout le temps. Il faut aussi savoir que c'est des infirmières qu'on a choisies. On ne devient pas un IPA de pneumologie si on n'a pas fait de pneumologie et si on n'est pas en confiance. Donc, il y a une vraie relation, un vrai lien. Et j'ai tendance à dire que ça apporte du bien pour les patients, mais ça aussi apporte un lien entre le patient et le docteur, mais aussi entre l'équipe paramédicale et le médecin. Et ça, c'est hyper important. Et puis, ben, vraiment, ça désengorge nos consultations et à la fois non, puisque ça nous permet de voir d'autres malades et de se concentrer sur la thérapeutique, etc. Mais tout ce qui est éducation thérapeutique, vaccination, régime alimentaire, et ben, c'est elles qui prennent le temps. Et on sent bien que les patients ont ce lien privilégié qu'ils n'ont pas avec nous. Et des fois, ils n'ont même pas envie de nous voir, nous. Hein. Ils veulent voir leurs IPA, quoi. Donc, c'est vraiment un plus. Et j'engage vraiment à tous ceux qui ne l'ont pas de s'y mettre, parce que c'est vraiment super.
Merci, Cécile. Il y a peut-être d'autres témoignages, parce qu'il y a des mains, Alexandra, qui se sont levées. Il y a quand même pas mal de monde. Je sais pas qui veut témoigner sur est-ce que c'est un fonctionnement similaire ou des fonctionnements différents dans vos structures. Hugues, t'as pas une IPA? On va solliciter le président. C'est son boulot.
Alors, elles sont actuellement en cours de formation. On a deux IPA, une sur avec un dossier qui a été monté sur l'oncologie thoracique et une seconde IPA sur les pathologies bronchiques, asthme, BPCO. Ce sont deux infirmières qui étaient dans le service. Je rejoins Cécile Trommer. C'est vraiment des gens qu'on connaît. Enfin, il y a un climat déjà de confiance. Elles ont une expérience en pneumologie. J'avais deux remarques ou deux suggestions pour les collègues qui souhaitent monter des projets. Ça nécessite auprès des directions d'aller présenter des projets, de monter des projets. Et ce qui a déjà été fait, nous, on pourrait le mettre en ligne sur le site du CPAG, les dossiers qui ont été montés. Et si les collègues veulent s'inspirer de ces dossiers, parce que il y a toujours des adaptations locales, mais le projet d'oncologie thoracique qui est monté, je pense que c'est parfois des freins en se disant « mais je ne me sens pas de monter un projet, d'aller le présenter devant une direction ». C'est quelque chose qui peut être mis en commun et je pense que ça facilitera les choses. Et la deuxième chose, j'avais une question de savoir s'il y avait eu une association des IPA de pneumologie pour que certaines infirmières qui sont peut-être se posent des questions puissent vous appeler, vous rencontrer et pouvoir échanger avant de se lancer dans cette perspective. Et la troisième chose, c'est quand même un investissement personnel, parce qu'il faut aller, là, les deux infirmières, ça nécessite d'aller prendre des cours, généralement dans une ville, alors nous c'est en dehors d'Orléans, en l'occurrence c'est Tours ou Paris, et sur le plan personnel, il y a quand même des implications importantes, donc il faut vraiment des gens motivés.
Alors, pour la première question, au niveau du projet, nous, on est passé du coup en demandant au chef de service, en discutant avec les différents pneumologues, et après, ils nous ont accompagnés du coup pour passer au niveau de la direction. Il n'y a pas de dossier vraiment. C'était des candidatures spontanées.
Et c'était la première année. Enfin, Marianne, c'était la première année. Deuxième. Donc, il y avait une sélection, parce qu'il y avait plus de candidats que de places. Oui.
Au niveau des associations, du coup, il y a beaucoup d'associations qui se font. Il y a l'association française, du coup, des IPA. Il y a un groupe, du coup, association Bretagne IPA. Et il y a aussi un groupe, alors c'est pas une association pour l'instant, mais on a un groupe, du coup, IPA Pneumo, qui peuvent être rejoints s'ils en font la demande, du coup, sans aucun souci, pour lesquels on échange sur nos pratiques et tout ce qui est les avancées qui arrivent.
Donc, il faut vous faire un mail, Alexandra, c'est ça?
Oui.
Voilà, donc, tu vois, c'est chu-brest.fr et ça fonctionne.
Et pour la troisième, effectivement, c'est un investissement qui est très important. Alors, ça dépend après des facultés. Nous, on était dans une faculté où c'était de l'alternance. Donc, c'était 15 jours à la fac et 15 jours, je retournais du coup sur mon lieu de travail. Ce qui n'est pas forcément évident, parce qu'on enchaîne le week-end et les temps de faculté après. Mais c'est vrai qu'il faut être prêt à faire des concessions, du coup, personnelles pour pouvoir travailler et reprendre les études.
Plus un mémoire.
Un mémoire avec la soutenance derrière.
C'est un gros investissement. Alors aussi, il faut savoir qu'il y a, bon, il y a toutes ces associations et comme il y a un CNP, il y a un CNP de pneumologie, de toutes les spécialités, il y a un CNP pour les infirmiers et il y a un CNP pour les IPA. Ça vient de se monter. Donc, en fait, pour être en interface avec les autorités de santé et puis les autres structures soignantes pour savoir notamment la discussion, c'est le qui fait quoi et est-ce qu'il va y avoir une extension de vos attributions. Alors, Alexandra, qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, je ne suis pas pour avoir plus d'extensions parce que je pense qu'on a déjà beaucoup de choses qui sont mises en place. On a beaucoup de choses à travailler. Donc après, il parle de la primo-prescription, il parle de l'accès direct. Voilà, moi, je sais que pour l'instant, je ne suis pas prête à aller là-dessus. Donc voilà, chacun sa place. On va déjà faire bien ce qu'on fait et après, on verra.
C'est carré, ça. Alors, nous, on a l'expérience. Moi, je fais que de l'oncologie, donc l'oncologie thoracique. On a une IPA en oncologie générale, entre guillemets, et avec un temps qui est mutualisé entre les différentes SP d'onco. Une des premières remarques qui me vient à l'esprit, c'est que je pense qu'au quotidien, vous êtes plus rigoureuse que nous. Vous allez plus rechercher, aller regarder en détail les choses. Et c'est très utile, parce que nous, on a une petite tendance à la fin à aller vite. Là. Je trouve que vous approfondissez plus que nous. Alors, en voyant votre diapo sur vos missions, elles sont hyper nombreuses. Je pense que quand même au quotidien, la clinique, c'est quand même une grosse partie. Ce que je vois sur les IPA en onco, c'est que le temps dédié à la recherche, il est encore limité, en particulier dans la recherche paraclinique. Et il faut qu'on apprenne aussi à vous sanctuariser du temps pour ça, parce qu'il y a aussi un intérêt à faire de la recherche clinique pour nos établissements, en soins infirmiers. Je pense qu'il faut qu'on soit vigilant là-dessus. Et comme vos missions sont très nombreuses, et même au sein même de la clinique, on voit, il y avait BPCO, embolie pulmonaire, PID et tout ça. C'est un peu comme onco-thoracique, onco-dermato. En fait, on fragmente beaucoup, beaucoup votre activité. Et peut-être qu'à terme, lorsque vous serez plus nombreuses ou plus nombreux, eh bien, il faudra probablement moins morceler tout ça parce que c'est trop éclaté. Ça fait des temps pour chaque qui sont assez limités. Donc, je pense que dans l'avenir, il faudra réfléchir à vous que vous soyez, entre guillemets, sur-spécialisés, en fait.
Il faudrait surtout que la formation soit avec s'axe par pathologie, parce que je suis du coup IPA en pathologie chronique stabilisée. Donc, mon diplôme me permettrait d'aller en cardiologie, sauf que je n'ai jamais exercé en cardiologie. Oui. Il faudrait qu'on arrive à recentrer plus selon chaque spécialité.
Oui, vous devenez une IPA spécialisée en pneumologie quand même, ou en psychiatrie, ou en pathologie rénale. Mais c'est vrai que le problème des libéraux, c'est qu'ils couvrent le tout, ce qui est vraiment très compliqué pour eux.
Et ce que je ressens, en tout cas, c'est que je ne vois pas de problème d'antagonisme avec les infirmières des services. Je sais pas, moi, je ne ressens pas ça entre vous. On pourrait dire, il peut y avoir de la jalousie.
Si.
Ah mince.
Si, si.
Oui, c'est un petit peu comme aux prémices de l'éducation thérapeutique. Il y a aussi ce petit côté-là, je crois. Hein. Je vous parle d'un temps où vous n'étiez pas né. Quoi, hein. Dans les années 90, on avait monté des structures d'éducation thérapeutique, notamment sur l'asthme. Et c'est vrai que les personnes qui étaient référentes là-dessus, elles étaient un petit peu... Voilà, on les considérait comme presque des docteurs. Enfin, il y avait quelque chose de ce côté-là. Mais je pense que ça s'est vraiment assoupli au fil du temps, que vous êtes bien accueillis partout quand même.
Mais quand j'étais en formation, je revenais tous les 15 jours, c'était assez compliqué.
Ah oui,
j'avais droit à des réflexions.
Durant le temps de formation, c'est peut-être plus compliqué. Ouais. Alors nous, par exemple, l'IPA d'Onco, elle voit des patients en HDJ. Alors en général, ce n'est pas des patients qui débutent le traitement, mais une fois qu'ils ont eu un certain nombre de cycles, on voit que c'est bien toléré, c'est elle qui les voit, donc ça nous soulage pas mal. Hein. Elle voit aussi des suivis de patients sous TKI et elle voit, elle a un suivi parce qu'on fait partie d'un programme OncoLink où il y a des patients qui sont pris en charge avec des pharmaciens, où il y a des consultations croisées infirmiers IPA. Donc elle les prend aussi en charge dès le début Et c'est vrai qu'elle devient la référente première des patients lorsqu'il y a un problème. Et ensuite, elle nous permet vraiment de traiter la majeure partie des problèmes. Et il nous reste des trucs un peu plus compliqués. Donc, c'est une aide précieuse pour nous.
Est-ce que dans la salle, on peut questionner sur la recherche, la place des IPA et la recherche clinique dans ces structures, des IPA qui font de la recherche?
Ce n'est pas la réponse à ta question.
Vas-y, pose ta question.
C'est un petit peu indiscret, mais je voudrais savoir, dans la mesure où vous avez 3 ans de formation après la formation d'IDE, comment se situe l'IPA dans la grille salariale par rapport aux IDE puéricultrices ou de bloc ou au cadre de santé? Ça peut être aussi un élément de la motivation.
Alors, on n'y va pas pour le salaire, parce que du coup, concrètement, moi, par rapport à une infirmière qui a le même expérience que moi, en service, qui travaille le week-end, on a le même salaire. Maintenant que je ne travaille plus les week-ends et avec des horaires fixes, je vais gagner 180 euros de plus, mais du coup, c'est ce que je perds sur mes week-ends. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'évolution. On espère que ça vienne, pour l'instant, ouais.
Ça, c'est en discussion. Ouais. Bon, voilà. J'avais des petites informations, peut-être, sur... en anticipant les questions sur la sécurité des soins dans cette structure d'IPA, la Haute Autorité de Santé a fait des enquêtes sur les parcours de soins coordonnés, les protocoles de coopération. Et alors, il y en a qui sont nationaux, il y en a qui sont régionaux, mais en fait, quand les informations étaient disponibles sur un peu plus d'une cinquantaine de ces actions, où il y a des infirmières qui participent à ces parcours de soins, les événements indésirables déclarés sont extrêmement faibles. Donc la Haute Autorité de Santé est plutôt très confiante dans ces systèmes où les infirmiers, alors ce n'est pas forcément dans ces parcours des infirmiers qui sont étiquetés IPA, mais enfin en tout cas ils avaient un rôle étendu qui était un rôle par rapport à leurs attributions. Et en fait, ce qui est événement lié aux soins, enfin événement indésirable, est très très bas. Donc ça, c'est un signal positif. Si on vous dit, qu'est-ce que vous faites, etc., il y a un risque. Alors, de l'autre côté, je ne sais pas si vous êtes au courant des évolutions éventuelles des dispositions légales. Donc, voilà. Donc, toute la discussion, donc c'est pour ça qu'Alexandra disait la primo-prescription, j'aime pas trop. En fait, toute la discussion qui est en cours, c'est est-ce qu'on va étendre la primo-prescription, alors de certains gestes, de certaines... prescription, polygraphie par exemple, c'était ça qu'on avait retenu, ou de traitement. Donc par exemple, si tu parles des IPA en oncologie, ça pourrait être toute une liste d'antalgiques en primo-prescription. Donc là, c'est vrai que vous êtes plutôt dans une attitude où vous... C'est pas que ça vous fasse peur, mais vous dites j'ai déjà assez de choses à faire, c'est ça?
Oui, et puis il peut y avoir des dérives très facilement, donc on va déjà rester, mettre bien les bases et après.
Donc il faut savoir que ça se discute. Hein, ces extensions de primo-prescription. Avec chez nous, on est d'accord. Cécile l'a bien exprimé. Et certaines spécialités sont un petit peu hésitantes. Donc on a fait remonter tout ça au ministère, mais ça va avec la loi de Madame Rist l'accès aux soins. Alors, les IPA en milieu libéral, est-ce que vous pouvez en parler un peu? Parce que ils sont pas un peu isolés, mais enfin, ils sont dans des CTPS, c'est ça?
La majorité sont en CPTS ou du coup avec des spécialistes libéraux. Mais après, il faut savoir qu'ils ont... Enfin, notre cotation fait qu'on peut, quand on voit un patient, pour avoir du coup être remboursé, il faut qu'on ait 3 mois d'écart entre chaque consultation. Donc pour les libéraux, c'est toujours pas simple. On peut les revoir à 1-2 mois sans souci, mais les libéraux, il faut vraiment qu'ils calculent. Du coup, il y a vraiment une question aussi budgétaire. Donc, pour leur survie, ce n'est pas forcément simple.
D'accord, c'est pas... Le modèle n'est pas raffiné financier. Quoi. Ouais, d'accord. Okay. Est-ce qu'il y a des petites questions?
À Rennes, il y a IPA, du coup. Il y avait Laurence en suivi onco. C'est vrai que pour l'oncologie thoracique, on a des gens qui vivent de plus en plus longtemps, donc avec des files actives qui augmentent. Et on peut, si on veut, faire quasiment remplir nos plages de consultation de gens qui sont en suivi. Et avec Hervé, Léna, qui a mis en place déjà il y a plusieurs années une IPA qui fait du suivi de patients. Donc, le scanner, de toute façon, il est interprété par le radiologue. Et s'il y a un doute sur le scanner, elle voit avec le clinicien, mais elle peut être amenée à voir des gens comme ça régulièrement en suivi, ce qui permet de décharger cette file active de gens qui vont bien ou assez bien et au profit de gens qu'il faut prendre en charge rapidement pour les nouveaux diagnostics. C'est à peu près ça que fait Laurent, je pense. Ouais.
C'est vrai que aussi vous avez souligné, il y a toute une coordination entre les infirmiers, les IPA, les infirmiers qui font de l'éducation thérapeutique, et puis aussi les infirmiers qui sont, enfin c'était l'exemple de Cécile, coordinateur de parcours, c'est ça, ou de centre pour l'hypertension pulmonaire, hein, c'est ça. Donc tout ça, c'est des métiers du monde infirmier qu'il faut coordonner.
C'est ça, et puis surtout une fonction, je trouve, de formation qui n'est pas négligeable, c'est-à-dire que dès qu'il y a des nouvelles thérapeutiques, Alexandra, elle vient, que ce soit dans la fibrose, dans l'hypertension pulmonaire, elle vient avec nous, avec les laboratoires aussi qui nous aident dans leur formation, et puis après, elle va former l'ensemble de l'équipe. Et ça, c'est hyper important. Après, si on a une petite spécificité, c'est qu'on a des infirmières parcours patient dans le service qui ont remplacé un cadre et qui tournent, c'est des infirmiers qui sont dans le soin, et qui tourne sur la programmation des patients et la gestion des lits. Et c'est super utile, ça, parce que c'est des gens qui savent de quoi ils parlent. Quand ils programment un patient, ils savent où et comment et dans quel service exactement le mettre. Et Alexandra, du coup, travaille beaucoup avec eux quand elle doit prendre des gens en urgence ou faire de l'éducation ou des hospitalisations programmées. Donc c'est un vrai travail. D'ailleurs, ça fait peur aux cadres. Hein. Au début, les IPA faisaient peur aux cadres puisqu'elles se sont dit « Mais mince, elles vont nous voler notre travail » parce qu'elles n'avaient pas conscience un peu de leur travail. Alors que c'est deux fonctions qui sont complètement différentes.
Merci Cécile. Ah, une question derrière.
Madame Rachaud.
Remarque.
Ouais, moi, c'est plus une petite remarque par rapport à ce que vous disiez sur la formation. Parce que moi, j'interviens en fait sur la formation des IPA à Rennes. Et en fait, on a affaire à un public qui est hyper motivé. Parce que c'est quand même des personnes qui ont une certaine expérience professionnelle qui lâchent leur famille, etc. Donc très, très motivés, très à l'écoute. Et on sent, enfin je m'intéresse plus aux professeurs des universités, on sent qu'il y a peut-être un manquement au niveau de la formation globale. Parce que, par exemple, il y a 4 heures, je crois, sur la pathologie chronique tout venant, respiratoire. Et je me demandais s'il y avait des IPA qui étaient impliquées dans le programme de formation, en fait, parce que elles sont quand même les mieux placées pour savoir ce qu'elles souhaiteraient.
Bah, du coup, nous, on intervient du coup sur le programme, du coup, sur l'insuffisance respiratoire, mais c'est vrai qu'on manque finalement, on est trop large et il faudrait qu'on se centre un petit peu plus sur chaque pathologie.
Ouais, je pense qu'il y a une réflexion plus globale dans la formation, là, du coup, après quelques années de pratique. À revoir.
C'est une bonne réflexion. Peut-être qu'il y aurait plusieurs niveaux, c'est-à-dire parce que c'est comme ces 5 aires de compétences. Après, vous pourriez avoir une espèce de spécialisation en fonction de ce que vous choisissez. Parce que, en fait, demain, on pourrait vous mettre chez les patients insuffisants rénaux, c'est ça?
Insuffisant rénaux, non, mais en endocrino, en neurologie.
Dans le groupe maladie chronique stabilisée. D'accord. Donc, ce serait quand même un gros challenge pour aller voir le diabète, non?
Oui.
Bon, c'est pas à l'ordre du jour.
C'est peut-être d'ailleurs ce qu'il faut faire comprendre à votre hiérarchie, c'est qu'en fait, vous travaillez dans des services qui sont hyper spécialisés. Je veux dire, vous, dans les HTAP et tout ça, vous avez besoin d'avoir un niveau de spécialisation, comme le disait Graziella, et que vous n'êtes pas comme ça interchangeable. Donc, c'est peut-être le rôle aussi.
Mais ça, on n'arrête pas de le répéter depuis des années et des années. Mais bon, ça commence à s'entendre.
Oui, ça fait déjà plus de 10 ans qu'on travaillait en pneumologie avant d'intégrer, du coup, la formation. Donc,
Eh bien, je crois qu'on arrive au terme.
On arrive. Ouais. Merci beaucoup.
Merci beaucoup pour une première fois. C'est pas mal. Sujet, hein. Ouais.
Merci, Alexandra. Ouais.
Et on va poursuivre dans un tout autre domaine.